France Inter. Le 18-20. Claire Servagen.
Au téléphone sonne ce soir, question sur notre réaction face aux images et aux récits d'horreur et de terreur qui nous arrivent d'Ukraine. Images de crimes de guerre, de corps abandonnés, de villes suppliciées, au premier rang desquelles la ville de Boutcha cette semaine, mais aussi aujourd'hui même le bombardement de la gare de Kramatorsk. Comment regarder l'insoutenable? Comment réagir face à l'inacceptable? Certains préfèrent éteindre la télé et la radio, d'autres pas, sachant que désormais les images sont partout, sur tous les supports, sur tous les portables. Alors ce soir, on va s'interroger, non pas sur la couverture des événements, ce n'est pas notre sujet, pas plus que sur les réactions internationales, le débat est permanent, mais sur l'impact que ces images et ces récits peuvent avoir sur nous, sur notre vie et celle des plus jeunes, en quoi cette guerre si proche peut nous conduire à nous interroger sur notre propre existence. Avec nous, pour en parler, trois invités que je salue. Bonsoir Serge Effèze.
Bonsoir.
Psychiatre, psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages. Je signale la parution le 20 avril en poche de votre livre « Transition, réinventer le genre ». Mariette Darry-Grand, bonsoir. Vous êtes sémiologue, vous tenez le blog « L'Observatoire des mots » et vous venez de publier « Viril comme Vénus » aux éditions Les Équateurs. Je ne sais pas si on vous entendait très bien dans le micro. Rebonsoir Mariette.
Bonsoir.
Voilà,
bonsoir.
Cette fois je vous entends. André Günther, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, titulaire de la chaire « Histoire visuelle ». Le standard attend vos appels, alors surtout n'hésitez pas à nous appeler.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et on va partir dans l'Isère pour un premier appel, celui de Sylvie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
Merci d'avoir appelé France Inter. Vous souhaitiez réagir à notre thème de ce soir?
Bah oui, parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me met une boule au ventre. Alors, ça me rend malade tout ce qui se passe, parce que je pense à toutes ces innocents, tous ces gamins. Et puis c'est vrai que c'est un peu anxiogène à force d'écouter la radio et la télé. Si bien que moi, je ne regarde presque plus la télé, je l'éteins. Je regarde qu'une fois le soir quand je veux vraiment avoir des informations. Et même je suis branchée en permanence sur France Inter. Et même maintenant, je l'éteins. Parce que je préfère rallumer quand il y a les émissions qui m'intéressent, mais il faut que j'arrête, parce que c'est anxiogène, c'est horrible, horrible ce qui se passe là-bas, j'arrive même pas à en parler tellement que ça me... des fois je suis un peu excessif dans mes propos, hein, parce que quand je pense à ce Poutine là, moi je me dis mais c'est pas possible, moi je suis pas extrême, je suis contre la peine de mort et tout, j'ai dit mais c'est un monstre qui fait subir aux gens, si un jour on arrive à l'écarter, mais il faut l'isoler complètement.
Sylvie, ça c'est effectivement la question de la responsabilité de ce qui est en train de se passer en Ukraine, mais je voudrais quand même que vous nous disiez, ça veut dire que ça atteint votre morale à vous, ce qui se passe là-bas?
Oui, c'est pour ça que je vous dis, j'étais quelqu'un qui avait toujours la radio d'allumer en permanence. Ben même maintenant, je la coupe parce que je préfère me mettre de la musique, écouter de la musique, plutôt qu'écouter sans arrêt ces informations.
Mais heureusement, Sylvie, il y a quand même de la musique aussi sur France Inter, il y a des programmes variés. Merci mille fois d'avoir appelé le standard de France Inter. Serge Effèze, je pense que c'est vers vous que je vais me tourner pour commencer après le témoignage de Sylvie. Et des Sylvie, il y en a d'autres, je pense.
Des Sylvie, j'en entends toute la journée, des Sylvie, il y en a plein mon cabinet, il y en a plein la France et il y en a plein le monde entier à l'heure actuelle. Et c'est vrai que ce dont elle parle, qui est de l'angoisse, hein, la boule dans le ventre, ça s'appelle de l'angoisse, eh bien beaucoup de gens la ressentent et on a mille raisons de la ressentir après avoir traversé une épidémie, après être pris dans une anxiété pour l'avenir de notre planète qui s'empire de plus en plus, une guerre en plus. On n'était pas calibré pour recevoir tout ça. On a vécu pendant deux générations sans maladie, sans guerre, sans inquiétude particulière, et tout à coup tout ça arrive, et c'est vrai que les générations précédentes ça leur était plus habituel, pour nous c'est quelque chose de tout à fait nouveau.
Il faut qu'on revoie
le logiciel, absolument. Alors en tout cas, ce que dit Sylvie par rapport aux images, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est sûr, c'est que cette surabondance d'images et d'images d'horreur, c'est quelque chose qui nous colle à l'image, c'est-à-dire qui nous sidère, qui nous empêche de bouger, qui nous empêche d'avoir une réaction, qui nous empêche de penser. Et qu'il y a un moment où je crois qu'il faut arrêter les images. On n'a pas besoin de voir tous les cadavres, de voir toutes les rues éventrées et tout ça. Il vaut mieux lire la presse, il vaut mieux lire les choses parce qu'au moins on peut se les représenter, se mettre un petit
les
peu
à distance. Les récits sont durs aussi, hein, Serge Fesse.
Les récits sont durs, mais c'est la réalité. Par contre, je crois qu'on ne peut pas esquiver cette réalité. C'est important d'être en courant, c'est important de le savoir. Bon, après, chacun fait comme il peut par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans cette surabondance d'images quelque chose qui empêche l'action et qui empêche la pensée. Et donc, c'est comme un cercle vicieux. Si vous voulez, ça majore encore l'angoisse. Et l'angoisse fait qu'on est encore plus collé à l'image. Et on est encore plus collé à l'image, donc on est encore plus angoissé. Je pense que c'est dans une espèce de court-circuit que Sylvie et bien d'autres sont pris aujourd'hui.
Et on arrive à éteindre la télé. Mariette Darrigrand, vous comprenez ce que nous a dit Sylvie? C'est un moment particulier d'être confronté à autant de choses?
Alors c'est un moment très particulier parce que nous sommes spectateurs captifs. On peut pas vraiment échapper, même si alors il faut éteindre le plus possible, etc. Mais nous sommes de fait dans une société médiatique, donc nous vivons la pauvre condition du médiavore. Hein, il est comme ça. Et c'est la première fois effectivement que ça se fait avec l'intrusion du réel, parce que d'habitude nous arrivons à gérer cette condition parce que très vite nous la rendons fictionnelle. Voilà, une guerre, hein, c'est des films d'action, c'est des jeux très violents aujourd'hui, c'est Game of Thrones, tout ce qu'on veut, mais il y a une dimension imaginaire qui vient. Là, c'est la première fois, en effet, que la guerre, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes dans la société du plus jamais ça, et ben là, elle revient. Il y avait des signes avant-coureurs de septembre, etc., mais là, elle est revenue en vrai. Et je crois que ce qui est insupportable, c'est cette effraction du réel, en fait.
Vous dites que ça peut pas être fictionnel, mais pourquoi? Parce que c'est en Europe, aux portes de l'Union. C'est ça la raison principale? Que ceux qu'on voit à l'écran sont des gens qui nous ressemblent? Que les villes qu'on voit bombarder sont des villes qui ressemblent à nos villes?
Oui, mais si je me place, c'est vrai, mais si je me place sous l'angle du récit, oui. On a prononcé le mot, au début de la guerre en Ukraine, le récit est encore presque fictionnel. On est presque devant Netflix, d'une certaine façon. Les médias eux-mêmes racontent quelque chose. Depuis qu'il y a des morts dans les rues, c'est pas du récit, c'est de la scène fixe. C'est massacre des innocents, si je reprends le terme de Sylvie, elle a parlé d'innocents. Et à ce moment-là, tout d'un coup, le flot s'arrête de raconter, et dans le récit, on arrive toujours à s'évader un petit peu dans l'imaginaire. Mais devant la scène fixe, mémoriel qui va s'inscrire en nous, à ce moment-là, on ne peut pas s'échapper, le réel est là, et le réel, en l'occurrence, c'est la mort.
André Günther, vous êtes un spécialiste des images, vous êtes d'accord avec ce que dit Mariette Darrigrand? Le fait d'avoir une scène figée, c'est différent de... Par exemple, on a vu des images terribles même au début, quand on voyait cette femme enceinte blessée sur un brancard, ou quand on voit ce qui reste de certains endroits suite au bombardement. Il y a une différence dans ce qu'on voit?
Oui, tout à fait. Il y a une gradation. C'est d'ailleurs une distinction essentielle entre la photographie d'information et l'image audiovisuelle, la vidéo. Par exemple, aujourd'hui encore, la presse continue à se servir de la photographie pour produire des images un peu synthétiques, un peu symboliques, un peu allégoriques, qui sont d'ailleurs aussi très utiles. Hein. C'est aussi des manières de produire un récit qui est très divers, hein, en même temps. Je voudrais pas qu'on pense que toutes les images se réduisent à la même chose. Mariette Darrigrand a bien fait de faire la distinction entre des genres, la fiction, la narration, l'information. Maintenant, par exemple, pour prendre un exemple très différent, sur le Covid, toute l'année 2021, la population a été sous l'obligation de porter le masque. Pendant cette période, si vous allumiez la télévision, on avait le sentiment assez étrange de voir un contraste entre le monde des plateaux télévisés où il n'y avait jamais de masque, donc une espèce de monde un peu idéal comme ça. Alors c'est compliqué parce qu'un plateau d'information sur une chaîne, sur un JT, c'est pas exactement de la fiction, mais c'est quand même une image arrangée, composée. Donc celle-là, on peut l'arranger un peu comme on veut. Mais dans les mêmes journaux télévisés, on voyait des séquences, micro-trottoirs, où effectivement, là, le journaliste allait dans la rue, et là, d'un coup, on les voyait, les masques. On voyait des gens portés, parfois sous le menton d'ailleurs, enfin avec de différentes façons. Et donc, vous voyez, là, ça veut dire que l'image, elle a quand même une fonction. Dans un rapport à l'information qui est difficile et dont on comprend très bien la difficulté, bien sûr que la violence, personne n'a envie de la voir. J'ai envie de dire, si vous voulez, c'est pas le problème, c'est pas les images de guerre, c'est la guerre. Personne n'a envie de voir la guerre, en image ou pas en image. Mais l'image, parfois, et en particulier l'image documentaire, elle nous met face à ce que nous n'avons pas envie de voir. Et elle nous met face à des réalités dérangeantes. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que le masque, qui n'est qu'une gêne. Donc ça, ce n'est pas très violent. Mais on voit bien comment le régime de l'information peut effectivement bifurquer et ne nous montre pas dans toutes les conditions les violences, les difficultés que nous n'avons effectivement, auxquelles nous n'avons pas envie d'être confrontés.
On va repartir au standard et on va aller dans Lyon cette fois retrouver Guy. Bonsoir Guy.
Bonsoir et merci de vos émissions, votre qualité. Merci. Je rejoins ce qui a été dit sur le plan de l'image. Moi, j'ai 80 ans, j'ai été frappé étant en 5e et 6e. Ma prof d'histoire-géo, c'était Madame Lucie Aubrac. Et elle nous a mis à voir le film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard. Je peux vous dire qu'en sortant, tous les bambins étaient quoi, ne parlaient plus. Et ça m'a totalement éduqué. Donc l'image peut être pédagogique. Ce que je regrette actuellement, c'est que le metteur en scène de l'image, c'est Poutine. Il décide de tout. Il fait le texte, il fait le rythme, il fait le temps. Il nous donne rendez-vous maintenant le 9 mai. Soyez tous devant votre téléviseur. Ça devient du voyeurisme. Je crois que c'est trop. Et je rejoins un de vos intervenants qui disait très justement, moi je suis un homme de radio. Effectivement, l'image, c'est accessoire. Je suis un homme de radio. J'écoute France Inter, je suis comblé, ça me suffit. Je peux après imaginer le reste. Mais c'est des esprits un peu qui voient ces choses-là, c'est terrible. Je trouve que ça devrait être quand même un peu moins rabâché sur des chaînes dont je ne cite pas le nom pour ne pas leur faire de pub. Et je trouve que c'est trop. Et c'est le maître du Kremlin qui dirige tout, qui est au centre de la toile d'araignée et qui envoie absolument quand il veut, quand il décide. C'est monsieur bons offices, voilà, je fais ci, je fais ça.
Merci.
Oui, Guy. Ça l'encourage, voilà.
Merci, Guy.
Je suis horrifié de ce qui se passe. Ceci dit, je ne suis pas le seul.
Guy, on va évidemment répondre à votre intervention concernant la situation actuelle, mais moi je ne vais pas vous laisser partir comme ça, alors que vous avez eu Lucie Aubrac comme professeur, parce que forcément elle vous a raconté des choses épouvantables, et malgré cela, vous l'écoutiez, et le récit passait auprès des élèves.
Oui, absolument. Absolument, parce qu'en fait, c'est une femme que j'ai toujours... vénéré, hein, si vous voulez, parce que nous, on était abasourdis. Et cette génération qui n'a pas connu de guerre, celle d'Algérie, par contre, oui, ça, on l'a connu, mais qui n'a pas connu tout ça, était effectivement à l'écoute, voyez-vous.
Merci. Voilà. Merci beaucoup, Guy, pour votre témoignage. Guy nous dit, Poutine est le metteur en scène. Je ne sais pas qui souhaite réagir à cette phrase, André Günther.
Alors là, je crois que ce n'est pas tout à fait la bonne analyse. Il suffit de regarder qu'est-ce que le public russe a vu, notamment au début du conflit. On a eu des comptes rendus assez exhaustifs. Précisément, les Russes ne voyaient pas d'image. Ils n'ont rien vu. Donc, encore une fois, l'image, pas n'importe quelle image, mais l'image document, c'est une information. Et le fait que ça nous angoisse, c'est tout à fait normal. Moi aussi, je ressens la même chose que Sylvie. Et parfois, ça m'arrive aussi de baisser le son ou de zapper, parce que effectivement, on est là dans un moment très intense. Donc, c'est trop. Il y a une question de dosage presque. Mais en même temps, c'est vrai que on est face à un conflit de très haute intensité, comme ça ne nous était pas arrivé depuis des décennies. Donc c'est aussi l'expression d'une réalité.
Avec cet élément particulier, puisque ça fait deux auditeurs finalement qui reviennent là-dessus et qui jettent l'anathème sur Poutine, et on peut évidemment tout à fait le comprendre dans ces circonstances, mais quelque chose qui effectivement rend les choses encore plus folles que tout autre conflit, c'est ce sentiment d'être entre les mains d'un fou, disons les choses comme elles sont, c'est-à-dire de quelqu'un qui a perdu perdu la raison et qui pourrait tout faire, qui pourrait appuyer sur un bouton et lancer des bombes atomiques de tous les côtés, qui pourrait déclencher une guerre mondiale.
Et qu'en dit le psychiatre que vous êtes ?
Eh ben, le psychiatre que je suis dit que rien n'est pire que la peur, rien n'est pire que la terreur, parce que ça, au-delà de l'image, la terreur, c'est vraiment ce qui empêche de penser, d'associer et de constituer un récit de ce qui est en train de se passer. Or, ce récit qui est « Poutine est le seul responsable », c'est un dingue qui va... Il faut absolument trouver des récits parallèles à ça, sinon on ne peut plus bouger par rapport à ça, on ne peut plus penser, on ne peut plus rentrer dans des processus de pensée qui nous permettent de nous décoller de cette réalité-là. Donc il faut aussi remettre les choses en situation, remettre les choses dans une historicité, dans une situation internationale, dans un rapport de force, c'est-à-dire dans quelque chose qui nous permet de pouvoir aussi un peu anticipé.
C'est un peu ce que font les journalistes au quotidien.
Absolument.
On va quand même le dire.
Mais justement, c'est pour ça que je pense qu'il faut écouter les journalistes et moins regarder des images.
Mariette Darrigrand.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que Guy nous a dit avec Lucie Aubrac, parce que ça nous remet un peu sur les bancs de l'école. Il a dit « ça m'a éduqué ». Alors, comment est-ce qu'on peut être éduqué par un discours sur la guerre ? Si je me remets sur les bancs de ma propre école, la guerre, en fait, en termes littéraires, c'est l'épopée. L'Iliade. Et là, il y a des massacres terribles, on coupe des têtes, et les héros sont grandis par leur cruauté même. Il faut quand même comprendre ça dans la guerre, c'est ça l'épopée. Mais il y a deux autres discours dans une grande épopée comme l'Iliade. Il y a le discours de Lucie Aubrac, si j'ose dire, ou quand Serge Effès dit « il faut penser », c'est-à-dire l'épopée c'est l'épos, voilà, et il y a le logos. Le logos c'est le philosophe, le penseur, le père de famille ou la mère de famille qui va rassurer son enfant en lui trouvant quand même du sens là-dedans. Je pense que Lucie Aubrac a trouvé du sens, a pu transcender quelque chose de l'horreur par ses propres mots en faisant des références culturelles. Et puis le troisième discours, c'est le mythe, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est beau, c'est merveilleux. Alors là, dans une guerre, ce qui est trop beau, c'est l'héroïsme. Parce qu'il y a toujours une dimension terrible de l'héroïsme, il ne faut pas se laisser avoir. Mais il y a aussi de la vraie beauté, des gens qui sauvent d'autres gens, des enfants qui sont sauvés. Il faut
des actes de solidarité.
Exactement. Donc ça, c'est à nous de le chercher. Parfois, les journalistes le font. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même aussi cette recherche dans le média. Il y a des journalistes où il y a des gens qui sont là-bas et puis qui... Voilà, donc il y a ça pour nous, comment dire, nous solidifier un peu devant ce flot épique des grands guerriers, etc. Il y a aussi les petits détails humains magnifiques. Et puis, il y a le sens. La guerre, c'est aussi un objet de philosophie. Il faut aller penser un peu la chose.
Et on repart au standard. Cette fois, nous allons à Lyon retrouver Sylvain. Bonsoir, Sylvain.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Et
bienvenue.
Bravo encore pour vos émissions.
Merci, Sylvain.
Écoutez, moi, je voulais revenir sur deux témoignages. Celui de Serge Effès, sur lequel, au début d'émission, où il indiquait que trop d'images étaient trop anxiogènes ou des choses comme ça. Moi, au contraire, je pense que les images actuelles vont permettre d'avoir des témoignages directs sur des actes criminels qu'on aurait pu avoir pendant la guerre de Syrie. Mais bon, cette guerre est beaucoup trop loin par rapport à nous, semble-t-il. Et je pense qu'au contraire, pas ce surplus d'images, mais j'ai eu l'occasion, et je me lève tous les matins en écoutant France Inter, en regardant les informations sur ma tablette, sur mon téléphone. Et quand une de mes filles me dit « excusez-moi, je vais être un peu cru, mais putain, cet après-midi, ils ont bombardé une gare », l'immédiateté de l'horreur de la guerre va peut-être nous permettre d'avoir justement des moyens de faire plier plus rapidement ces criminels. Enfin, j'ai appris que ce qui s'était passé à Bouchka il y a quelques jours, et ben on sait désormais qui était le lieutenant-colonel qui gérait le convoi, qui est rentré dans cette ville et qui a massacré les gens. Enfin, au contraire, je pense qu'il faut véritablement communiquer le plus largement possible avec ces images. Ce sont des témoignages directs, ce sont des témoignages qui permettront, je l'espère, à l'humanité de juger les vrais criminels qui actuellement agissent en Ukraine.
Merci beaucoup Sylvain d'avoir appelé le standard de France Inter. André Günther, sur ces images justement qui désormais sont encadrées hein, par les médias, on va dire ça, les journalistes sont sur place, accompagnent dans le récit. Au début, ces images elles ont circulé sur les réseaux sociaux. Vous me disiez quand on a préparé cette émission, et globalement il y a beaucoup d'images images aussi qui circulent sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même important de les avoir à titre de preuve, en tout cas. Après, je dis pas qu'il faut le diffuser toute la journée, mais...
Non, c'est ça. Il y a vraiment une notion ensuite de hiérarchie et de mise en récit. Mais voilà, effectivement, les images de Boutcha, qui sont des images terribles, mais dont je peux vous dire que ça n'arrange pas du tout Poutine que ces images aient circulé. Hein. Il y a des suspicions de crimes de guerre. Il y aura probablement une enquête internationale. C'est pas des choses qui vont du tout dans le sens des Russes. Alors, effectivement, ces images, elles ont d'abord circulé le 1er avril, malheureusement, si j'ose dire, sous forme de vidéos autoproduites, donc par des témoins sur place. Et donc, on a eu plusieurs vidéos qui étaient, en fait, des gens qui filmaient avec leur smartphone en voiture, qui roulaient sur ces rues où on voyait des cadavres par terre.
Mais malheureusement, eux, ils ont voulu peut-être surtout témoigner et faire savoir
absolument
ce qui se passait. Hein, c'est ça, la réalité.
Donc, c'était des courtes vidéos d'une minute ou de 30 secondes, il y en a eu plusieurs. Moi, j'ai vu ces vidéos le 1er avril, qui circulaient sur Twitter et sur Telegram. J'avoue que là, quand en manque d'informations, vous voyez, il n'y avait pas encore de récit journalistique pour organiser ça, j'étais dans une sorte de brouillard, c'est-à-dire que je n'étais pas sûr de ce que je voyais, et j'ai un peu suspendu mon interprétation en me disant, bon, je vais attendre, effectivement, et voilà, donc 24 heures plus tard, on avait une information beaucoup plus construite, et des chiffres de victimes, les premiers témoignages. Ça a duré 48 heures à peu près, hein, pour commencer à y voir clair dans quelque chose qui est un crime atroce, et probablement des exécutions sommaires. Donc vous voyez aussi comment ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a une temporalité de l'information. C'est pas simplement on est soumis à une image comme ça, et puis on éteint la télé, et puis terminé, on passe à autre chose. L'angoisse est une première réaction, mais ensuite, il se passe d'autres choses. Et heureusement, le journalisme aujourd'hui joue un rôle absolument essentiel pour médiatiser, c'est-à-dire mettre l'information au récit, nous la faire comprendre et nous la faire accepter.
Et pour rebondir par rapport à ce que nous disait Sylvain, Serge Hévès, je voudrais vous dire, on a énormément de mails qui nous arrivent, de gens qui nous disent on éteint la télé, on n'en peut plus, on arrête. Mais il y a aussi Brice qui nous dit, nous n'avons pas la télé à la maison, surtout Internet et la radio, mais depuis le début de la guerre, nous regardons le 20h, quelques soirs par semaine avec les enfants, 10 et 12 ans, pour qu'ils puissent mettre des images sur tous ces récits que nous entendons tous les jours sur vos antennes. Comme quoi, l'image peut aussi avoir son importance.
Ah, mais bien et elle est évidemment, essentielle on ne peut même pas couper toutes les images, parce qu'à ce moment-là, on perd aussi des possibilités de représentation que permet la lecture, mais pas uniquement. Mais ce que j'entends surtout, c'est des parents qui regardent les informations avec leurs enfants. Et ça, c'est une chose capitale. C'est-à-dire, c'est des parents qui vont pouvoir médiatiser l'horreur des images, qui vont sidérer ces enfants et leur expliquer ce qui est en train de se passer, mettre des mots sur ce qui est en train de se passer, dire leurs propres émotions pour permettre aux enfants d'exprimer les leurs. Et là, cet enfant n'est plus en prise directe avec l'image. Je reprends ce que disait Sylvain tout à l'heure dans sa phrase quand il parlait de sa fille qui dit « Mais putain, on a fait exploser une gare ». Alors, c'est important de savoir à ce moment-là, est-ce qu'il vaut mieux que cette jeune fille regarde cette image de la gare explosée avec des cadavres éventrés de tous les côtés, ou à partir de cette information, on a fait exploser une gare, qu'elle puisse commencer à réfléchir, qu'elle puisse commencer peut-être à se demander qu'est-ce qu'elle peut faire par rapport à ça, de quelle façon elle peut le raconter aux autres, peut-être qu'elle peut se mobiliser, peut-être qu'elle peut créer une association dans son lycée ou dans son collège pour aider les réfugiés, je ne sais pas, mais quelque chose qui fait que on agit un petit peu,
on devient un peu
sur
acteur.
Cette fatalité, on devient un petit peu acteur de cette fatalité. Vous savez, les jeunes, comme je vois beaucoup de jeunes toute la journée, ils sont incroyablement interpellés par ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'ils s'identifient énormément aux jeunes Ukrainiens, à ces jeunes gens, par exemple, qui partent au combat. Ils entendent des mots qui, jusque-là, étaient des mots très galvaudés, défendre sa patrie, défendre sa nation, prendre les armes pour défendre sa nation. Il y a quelque chose d'un peu genré qui se met en place, les femmes protègent les enfants, elles vont vers l'arrière, les hommes vont vers l'avant. Tout ça, c'est quelque chose qui bouscule la façon dont les jeunes gens ont été élevés jusqu'à présent, aussi bien dans la répartition des rôles que dans la très grande quiétude par rapport à leur existence.
Et il y en a qui se demandent qu'est-ce qu'on ferait.
Mais ils se demandent tous qu'est-ce que je ferais. Ils se le demandent plus qu'ils se sont demandé. Parce que la guerre, il y en a toujours eu. Et on en a vu au Rwanda, et on en a vu en Syrie, on en a vu partout. Mais là, tout à coup, il y a quelque chose qui est à nos portes et auquel il s'identifie évidemment beaucoup plus que tout ce qui s'est passé jusqu'alors. Qu'est-ce que je ferais ? Il se pose cette question. Il y en a que ça anéantit complètement, parce que tout ce qu'ils peuvent penser, c'est que je me mettrais dans un trou et j'aurais trop peur. Mais d'autres, ça les mobilise. Et je pense que pour ceux que ça anéantit, il faut vraiment les aider. Il faut les aider à mettre des mots et à imaginer des actions.
Parce que ça nous renvoie à notre propre impuissance. Hein. C'est surtout ça qui est très compliqué avec cette guerre. On est tous en train de voir jour après jour un conflit aussi terrible, aussi meurtrier. Et rien n'arrive à arrêter ce qui se passe. C'est là que c'est compliqué, Mariette Darrigan.
Oui, ça nous met dans une terrible situation de spectateur captif et impuissant. Donc la possibilité d'agir, elle est clé pour lutter contre l'angoisse. Mais je pensais aussi, au contraire de la guerre, qui est la paix. Quand même, on peut aussi, en tant que parent par exemple, faire circuler ce concept, ou comme on a vu comment le sentiment européen avait pu se recréer très très vite en quelques jours, on s'est dit, bah, c'est vrai que l'Europe c'est la paix. Et du coup, pour les gens qui sont jeunes ou même de notre génération, finalement c'était acquis ça. Or, cette guerre, le côté, je dirais pas positif, mais pédagogique qu'elle peut avoir sur les jeunes, je pense, enfin, mes discussions avec les générations est là, c'est que la paix n'est jamais acquise. Et que des gens ont fait la guerre et sont morts pour que nous puissions vivre en paix. Ça fait 60 ans que nous le faisons, mais c'est remis en cause. Et donc, du coup, la pacification, le mot actif, pas la paix comme résultat, mais la pacification qu'il faut produire est intéressante pour des jeunes. Ils ne sont pas obligés de partir à la guerre. Ce que je voulais dire aussi là-dessus, par rapport aux jeunes, c'est personnellement, je suis tout à fait opposée au vocabulaire du martyr. Même quand on dit Mariupol, ville martyr, il faut faire attention. Là, il faut s'arrêter, il faut décrypter le mot, parce qu'il est religieux, il est mystique, et il conduit à une forme de logique sacrificielle. Donc il faut arrêter avec ça et mettre de la politique. Faire que la paix soit là en Europe, c'est un travail politique que des gens ont fait depuis des années et que les jeunes générations doivent reprendre à leur compte.
Emmanuel est à Amiens et il a appelé le Standard de France Inter. Bonsoir Emmanuel.
Oui, bonsoir, merci à vous de prendre mon appel. Alors moi je fais un constat, je travaille dans une banque qui est régionale sur les Hauts-de-France et je rencontre énormément de clients. Et aujourd'hui les clients sont particulièrement inquiets de la situation économique, politique, des élections qui approchent la dimanche. Ils s'interrogent beaucoup. Ils ne savent pas vraiment pour qui. Enfin, ils savent pour qui ils ne vont pas voter, mais ils ne savent pas pour qui ils vont voter. L'inflation qui est aussi assez marquée. Enfin, il y a tout un tas de choses de cet ordre-là. Et cet après-midi, par exemple, j'avais plusieurs personnes. Il y a une personne qui était très inquiète. Elle me dit, nous vous vraiment très spécial. Et puis une autre qui était dans l'Aisne. Et elle me dit, vous savez, je n'achète pas ma maison parce que simplement, j'ai peur qu'elle soit bombardée. Alors, je dis, comment ça, bombardée? Ben en fait, pour elle, elle pouvait avoir une maison bombardée. Alors, c'est vrai qu'elle est sur le chemin des dames. Est-ce que ça amène des rappels, peut-être? Et quand aujourd'hui, on parle de diversification à nos clients, on dit une chose qui est assez terrible comme adage. On achète au son du canon et on vend au son du clairon. Et ça résonne à l'esprit des gens de façon dramatique. Alors, si vous y accumulez à ça les questions qu'ils voient ou qu'ils maîtrisent assez peu finalement du monde, eh ben vous avez une situation qui est anxiogène pour eux. Et dimanche, ils sont inquiets parce qu'ils s'interrogent de ce qui va se passer. Ils s'interrogent de ce que va être lundi, ce qui va être la semaine prochaine sur leur pouvoir d'achat, pour la transmission de leurs enfants, pour eux. Et en fait, comme le disait tout à l'heure justement votre intervenant, pendant deux générations, on n'a pas connu de problèmes de santé, on n'a pas connu de problèmes de guerre. On était la première génération, en fait, finalement, à pas avoir eu de problèmes particuliers. Et aujourd'hui, on les rencontre, et c'est très anxiogène. Alors, c'est moi qui suis relativement, pas pessimiste, optimiste, mais plutôt réaliste, je trouve que c'est une situation tout à fait... inquiétante, parce qu'on rencontre de plus en plus de gens qui sont touchés par cet esprit.
Merci beaucoup Emmanuel. Serge Fez, là ça va loin. Hein.
Bah, ça va loin.
D'être bombardé, avoir une maison bombardée, c'est logique. On peut le comprendre.
Aux portes à quelques kilomètres d'ici, on peut tout à fait imaginer que ça puisse arriver. C'est pas une folie d'imaginer qu'on puisse être bombardé. Mais c'est toujours, si vous voulez, la peur, c'est un signal d'alerte. Tous les animaux connaissent la peur et les êtres humains aussi. C'est ce qui permet de réagir et d'être face à l'ennemi. Le problème, c'est que trop de peur produit l'effet inverse. C'est-à-dire que trop de peur, ça paralyse et ça empêche la pensée. Et donc, ça provoque la projection sur l'autre, la projection de la peur sur l'autre, sur l'ennemi commun, sur le bouc émissaire, etc. En fait, tous ces mécanismes qu'on connaît bien. Alors, je sais qu'on n'a plus le droit de parler des élections, mais enfin, on voit bien.
Vous avez le droit de parler des élections, mais pas des candidats.
Pas des candidats.
Pitié,
donc, on voit bien ceux qui ont agité la peur, et puis ceux qui ont été peut-être plus mesurés par rapport au fait d'utiliser la peur comme une arme de communication. Donc, il faut absolument faire en sorte qu'on sorte de cette peur. C'est pour cela que, encore une fois, tout ce qui va être un vrai travail d'information, un vrai travail d'analyse, un vrai travail de réflexion, tout ce qui va aider les gens à se mobiliser à leur niveau pour faire une toute petite chose qui va faire qu'ils se sentent actifs, ça permet de sortir de cette angoisse. Quand les gens sont reliés par la peur, c'est là où on arrive à des génocides, à des situations de massacres absolument épouvantables, parce que la peur, c'est de la paranoïa, c'est de la paranoïa collective. Il s'agit de toujours se sentir la peur de l'ennemi, d'identifier cet ennemi et de l'anéantir.
Alors, par rapport à ce que nous disait notre ami banquier dans les Hauts-de-France, André Gunther, qui parlait de cette dame qui avait peur d'acheter une maison et de l'avoir bombardée, il faut dire que il y a eu aussi des images truquées qui ont circulé depuis le début de cette guerre en Ukraine, avec des images de Paris bombardées. Il y a eu cette fameuse vidéo qui a circulé. Ça rajoute encore au climat ambiant, ça.
Je ne sais pas si
on a compris que c'était un trucage, hein.
De cette séquence. Ouais. Il y a aussi des différences de sensibilité à l'information. On s'est beaucoup intéressé dans la période récente aux sensibilités complotistes, dont beaucoup d'études semblent montrer que ce sont des personnes, disons, moins intégrées, donc qui ont un rapport plus distant à l'information. Alors elles vont finalement fabriquer leur propre récit. Mais à l'autre extrême, on a aussi des personnes qui sont très sensibles à l'information, peut-être hyper sensibles, qui sont aussi sensibles à la publicité. Hein. C'est aussi des gens qui vont acheter des vêtements le jour des soldes parce qu'ils ont vu une publicité. Donc ces personnes-là, on pourrait aussi s'y intéresser. Et là, on découvrira que il y a probablement en ce moment des vrais sentiments de panique qui se diffusent à cause d'une menace qui est bien réelle, comme le dit Serge Hefes. Donc, il n'y a pas non plus, comment dirais-je, c'est bien d'être inquiet face à une réalité inquiétante. Je veux dire, c'est déjà une réaction. Encore une fois, c'est une première étape. On ne va pas s'arrêter là. Mais vous comprenez, moi, ce que je me dis en ce moment, je ne peux pas m'empêcher de penser que si nous, collectivement, en Europe, on avait peut-être réagi un peu plus lors de la guerre de Syrie, la guerre de Libye, tous ces conflits. Parce que nous, on est bien tranquille, on n'a pas de guerre sur notre sol, très bien. Mais la guerre, elle existe ailleurs et pas si loin de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est vrai que nous n'avons pas suffisamment réagi. Et quelqu'un comme Poutine, et qui était en Syrie, a très certainement entendu cette information et s'est dit probablement à compter sur la tenue européenne. Alors, peut-être que si à ce moment-là, on avait vu des images qui nous avaient fait réagir, on aurait, empêché, mais en tout cas, vous voyez, mobilisé.
Il y a eu des images, évidemment, il y en a eu beaucoup moins, mais il y a eu des images, il y a eu des récits. On a quand même couvert ces conflits, bien évidemment, beaucoup moins que c'est le cas aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en Ukraine. On va prendre un dernier appel au standard. C'est Anne qui est à Paris. Bonsoir, Anne.
Oui, bonsoir. Alors, je voulais juste attirer l'attention sur quelque chose qui me paraissait important, qui est de l'ordre. Mais auparavant, je voulais remercier votre invitée Mariette. Je crois que c'était extrêmement important ce qu'elle a rappelé, c'est-à-dire qu'il faut avoir une action pédagogique sur l'intérêt de l'Europe, de la paix, parce que la guerre a toujours existé, elle existera toujours, certes. Et parce qu'elle est faite par les hommes, et tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres, malheureusement, mais qu'en même temps, on peut œuvrer pour la paix, et que la construction européenne, c'est quelque chose d'essentiel, et c'est très important d'expliquer ça aux jeunes en particulier, parce que ils n'ont pas forcément cette notion-là, puisqu'ils n'ont pas connu la guerre. Et la deuxième chose que voilà, je voulais remercier sur l'importance de sa remarque.
Elle vous écoute avec attention. Elle va vous répondre. Elle va vous répondre, Anne. Mais si vous pouviez nous donner la deuxième partie de votre question.
La deuxième partie, c'est que je voulais attirer l'attention sur le fait que devant la profusion et pratiquement la concurrence d'images, toutes plus horribles les unes que les autres, on est dans une position de voyeur. Donc c'est très très gênant et je pense que c'est un manque de respect par rapport à la dignité des personnes qui sont montrées comme ça, affichées partout dans le monde, parce que
Merci,
y a des
Anne.
Hommes qui sont très bien, mais il y a des hommes qui sont pas très bien. Et je pense que là, c'est malsain. Il y a quelque chose de malsain, parce qu'on n'est pas obligé d'être abreuvé d'images sans arrêt.
Faut que je vous coupe, Anne. Je crois qu'on a compris. Merci beaucoup, parce qu'il est déjà 19h57, et il faudrait quand même que nos invités puissent vous répondre sur le côté voyeurisme, Mariette Darrigrand.
Oui, mais alors ne nous flagellons pas quand même trop. On a eu de la chance, quoi. C'est vrai, voilà, on pouvait être voyeur en quelque sorte, parce que la guerre ne nous semblait... Alors là-dessus, ce que je voudrais dire, c'est que, sans citer les candidats, mais que notre campagne présidentielle, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on échappe à la métaphore de la guerre, justement. Hein. Elle revient vite dans le discours politique en France, elle est revenue au moment du... Bon, là, on n'y a pas droit, et c'est super. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on a compris, là, que le réel ne pouvait pas se mélanger à la métaphore imaginaire. Après, il en faut en trouver quand même des métaphores. La même chose avec le mot chaos qui a été beaucoup utilisé dans la campagne électorale pour des raisons très démagogiques, une exagération qui n'avait pas vraiment lieu d'être. Et là, y en a un vrai. Donc vraiment, c'est indécent de parler du chaos en France.
Sur le voyeurisme, Serge Eiffez, dont parle Anne.
Oui, quand on parle de voyeurisme, on parle de jouissance. C'est-à-dire qu'il y a une jouissance à regarder les images. Cette jouissance, elle peut être ressentie comme positive, mais le dégoût, l'excès de dégoût, c'est aussi une forme de jouissance. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire, c'est des émotions qui, encore une fois, collent à l'image et fait qu'on ne peut plus s'en détacher et qu'on devient, on devient collé, complètement collé à cette image. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Cette position de voyeur, cette position de jouissance. Et pour ça, il faut pouvoir se décoller des images. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien regarder. Ça veut dire qu'il faut regarder à son rythme. Tout le monde n'a pas le même rythme par rapport à ça. Mais quand on sent ce sentiment un petit peu malsain qu'on ressent, on a besoin de voir ça, on ne peut plus s'en passer, on est complètement pris dans cette histoire, eh bien, il faut pouvoir s'en décoller, encore une fois, pour lire, pour écouter, pour pouvoir se fabriquer son propre récit, sa propre narration par rapport à ce qui est en train de nous arriver.
Et je retiens ce que vous nous avez dit tout à l'heure, regarder la télé avec les enfants, ne pas les laisser seuls.
Ah oui, les enfants, faites attention aux enfants, ne laissez pas les enfants tout seuls devant ces images, ça ne sert à rien. Et aidez-les justement en les aidant à décrypter ce qui est en train de se passer.
André Günther, vous avez 20 secondes pour conclure à votre tour. Prudence.
Je pense on peut donner un message positif qui est que tant qu'on parle des images de violence, c'est qu'on est encore protégé de la violence. Donc ce n'est pas le cas des Ukrainiens. Vous voyez, les Ukrainiens, ils ne parlent pas des images, ils sont sur le terrain. Donc continuons à parler des images, c'est déjà pas si mal.
Un très grand merci à tous les trois d'être venus nous parler de ce sujet ce soir, avec plein de messages d'auditeurs qui ont réfléchi aussi à éteindre la télé, à moins écouter la radio, mais allez, il faut quand même l'écouter un petit peu. Juste après les informations de 20h, l'heure philo, vous retrouverez Patricia Martin avec Alyosha Val-Lazovski. Au programme, les relations entre Sartre, Simone de Beauvoir et Albert Camus.